Cassis FM.
Bonjour Rémi Delatte.
Bonjour.
Député de la deuxième circonscription de Côte d'Or jusqu'au mois de juin, parce que vous avez décidé de ne pas renouveler votre mandat, de ne pas vous représenter une nouvelle fois. Première question, Rémi Delatte, pourquoi ne pas poursuivre sur un quatrième mandat?
En politique, on peut aussi donner du crédit à la parole. Et il y a 5 ans, j'avais annoncé que ce serait mon dernier mandat. Donc aujourd'hui, voilà, je suis au terme de ce troisième mandat de député. J'avais dans mes projets de pouvoir mettre en place quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui va apporter un nouveau souffle à la deuxième circonscription. Et voilà, c'est en toute sérénité, en responsabilité que j'ai pris cette décision.
Voilà, on parle évidemment d'Adrien Huguet qui était attaché parlementaire à vos côtés depuis 8 ans, hein, c'est cela?
Tout à fait, 8 ans.
Quels souvenirs, je suppose qu'il y en a énormément, mais quels sont les principaux faits marquants que vous retenez de ces 15 années de mandature?
Oh, ils sont nombreux. Il y a un fait qui m'a particulièrement marqué. C'est tout au début du mandat, lorsque François Fillon a fait sa première déclaration de politique générale.
Donc en 2007. 2007, ouais, voilà, ça. Nicolas Sarkozy venait d'être élu président de la République.
Ouais. Donc j'avais été élu. Voilà, je suis quelqu'un plutôt de réaliste. J'avais pas pris la grosse tête pour autant. Et lorsque je me suis trouvé dans l'hémicycle avec mes collègues. J'ai écouté, bien sûr, attentivement François Fillon, qui était un orateur brillant et qui a donné un peu sa feuille de route pour les années suivantes, pour son gouvernement.
Ce qu'on appelle discours de politique générale.
Discours de politique générale, hein, qui est sanctionné d'ailleurs après par un vote. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, Rémi, là tu vas jamais y arriver. Parce que bien sûr, on abordait tous les sujets, je me disais, mais j'ai pas la compétence requise, etc. Donc un petit moment de vertige.
Ah ouais.
Et puis, très vite, j'ai su faire face. Et c'est un métier passionnant. Après, il y a eu d'autres moments plus complexes, notamment...
Parce qu'après, vous étiez dans l'opposition.
Alors, j'ai fait effectivement un mandat...
De 2012 à 2017, le mandat de François Hollande.
C'est ça, tout à fait. Puis après, donc, le troisième mandat sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Trois mandats complètement différents.
Ouais.
Complètement différents. D'abord parce que le Parlement a bougé aussi, il s'est modernisé. Il y a eu des règlements intérieurs qui ont été de fonctionnement, j'ai envie de dire, qui ont un peu bougé. Et puis, surtout, des empreintes complètement différentes. Quand on est dans la majorité, et c'était le cas... dans le premier mandat avec Nicolas Sarkozy, quand on est dans la majorité, on a une vraie prise dans les décisions. On a une proximité avec les ministres, on contribue vraiment à l'élaboration de la loi.
On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, également, même
absolument.
Si...
Absolument.
Ouais.
Absolument. Vous savez, j'ai plusieurs fois voté différemment que ce que votait la majorité de mon groupe.
Sur quel sujet?
En particulier sur la loi de programmation militaire. La dernière loi de programmation militaire, hein, donc 2019-2025, proposée donc par Emmanuel Macron, j'ai considéré que cette loi allait dans le bon sens de ce que nous avions nous proposé et que nous n'avions pas fait. Donc il y a un moment, il faut aussi être cohérent. Et j'ai voté, nous étions deux de mon groupe, puisque j'appartenais, j'étais... Donc, rattaché au groupe Les Républicains, apparenté. Et donc, j'ai fait le choix de voter, alors que mon groupe ne le votait pas. J'ai aussi, à l'époque de Nicolas Sarkozy, j'avais été contre la réforme qui avait été proposée, en particulier qui réformait la garde à vue, parce que je considérais que ça n'allait pas dans le sens de ce que nous pouvions défendre. Et voilà, je m'y suis opposé.
Vous avez gardé votre liberté.
Ouais. J'ai gardé ma liberté. Vous savez, ça vous met en paix avec votre conscience.
Parlez-nous, Rémi Delatte, parlez-nous un petit peu de la vie de député, parce que c'est peut-être un petit peu abstrait pour le grand public. Comment ça se passe concrètement? Il y a 2 journées par semaine où vous êtes à Paris. Alors, le reste du temps, vous êtes dans votre circonscription. Deuxième circonscription de la Côte d'Or, c'est la ville de Saint-Apollinaire et l'est de
Dijon. Le canton de Saint-Apollinaire, voilà. C'est-à-dire qui comprend aussi Mirbeau, Fontaine-Française, et le canton d'Aussonne-Pontaillé, sur Saône, et puis une grosse partie de la ville de Dijon. Puisque la circonscription est à moitié sur Dijon, à moitié sur le rural. Un vaste territoire, 76 communes, Si vous voulez, la mission du député, il y a trois points. C'est un, représenter ses concitoyens, c'est-à-dire être en permanence avec eux, c'est-à-dire sur le terrain, les rencontrer, les écouter, les comprendre. Deux, c'est de faire la loi, légiférer. Donc ça, c'est le travail qui se fait en commission, entre le mardi, on va dire, et le jeudi. Et puis, la troisième chose, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement plus récent et qui est en train de monter en puissance. Mmh. Il est important qu'effectivement, une fois que la loi a été votée, c'est qu'on puisse évaluer derrière, est-ce qu'elle a été pertinente, est-ce que son application répond aux attentes qu'on avait formulées au moment où elle a été votée. Donc ça, c'est ce travail de contrôle aussi du gouvernement, de l'action d'une manière générale du gouvernement.
Et ce travail, il se fait notamment, alors je disais, chaque fois c'est pareil, il y a deux jours
Alors effectivement, les deux jours les plus intenses à l'Assemblée, c'est le mardi et le mercredi, travail en commission, travail dans l'hémicycle, question au gouvernement, donc dans le rôle justement de contrôle et d'évaluation de l'action du gouvernement. Et puis après, il y a tout le travail individuel, bien sûr, de préparation des textes, préparation des amendements, quand on veut déposer des amendements, rédaction des rapports qui nous ont été confiés. J'ai eu l'occasion d'en écrire une dizaine. Et c'est des moments forts parce que ça nécessite une grosse mobilisation d'audition, de rédaction et après de confrontation. C'est tout à fait intéressant. Et puis les amendements que l'on peut déposer soi-même ou co-signer,
pour modifier un texte.
Amendements des collègues. Et puis après, donc ça c'est le travail à Paris, j'ai envie de dire. Et puis après, vous avez tout le travail
sur le terrain, bien sûr,
qui est éminemment important.
Qui se fait tout le reste du temps, le week-end également, bien sûr.
C'est aussi le week-end, parce que nos concitoyens, ils organisent beaucoup de choses le week-end et ils aiment que leurs parlementaires, leurs députés soient présents. Et je dois dire que c'est des moments très forts, très riches, de rencontres de personnes. Voilà. Là aussi, ça laisse des belles émotions.
Ouais.
Il y a le travail du parlementaire, mais il y a aussi
le travail de terrain, bien sûr.
Le lien avec les citoyens.
Il y a le grand public qui a parfois l'image un peu négative des députés qui sont souvent absents à l'Assemblée nationale, l'Assemblée souvent clairsemée. Vous avez tenu à être là le plus souvent possible.
Je dois dire, effectivement.
Je suis pas allé vérifier, Rémi. Je suis pas allé vérifier chaque mardi ou mercredi si vous étiez là, mais en tout cas, c'est ce que vous nous avez dit. Vous teniez à être là le plus souvent possible.
Je m'en suis fait un devoir parce que on est élu, on doit aller au boulot. Et effectivement, j'ai vraiment participé à tous les travaux de l'Assemblée le mardi et le mercredi depuis 15 ans systématiquement. Si j'ai dû m'absenter, c'est pour des raisons vraiment tout à fait exceptionnelles.
Quelques absences,
mais
dues à des, évidemment.
Mais j'ai donc participé à toutes les semaines aux travaux parlementaires. Après, je comprends que nos concitoyens, quand ils voient des images avec une trentaine de députés ou que le lendemain, à la radio, ils entendent « Cette nuit, la loi est passée à 20 voix contre 5 », les gens disent « Mais ils sont 577, ils sont où ?»
Ils sont où,
Mais on ne peut pas être tout le temps dans l'hémicycle. D'abord, notre travail est dans l'hémicycle. Enfin, j'allais dire, être présent dans l'hémicycle,
certains députés donnent la priorité à leur travail de terrain, peut-être aussi.
C'est même pas une question de priorité, Fabrice.
Cumul de mandats aussi, parce qu'il y en a qui sont maires également, qui sont présidents de communautés de communes.
On peut plus être maire et parlementaire. C'est d'ailleurs dommage. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est tout simplement parce que on est dans l'hémicycle au moment où on intervient. Parce qu'on a déposé un amendement. On vient déposer son amendement. On vient défendre son amendement et participer au débat à ce moment-là. On est présent dans l'hémicycle quand on participe d'une manière générale au texte qui est soumis. Mais il y a tellement de textes sur lesquels, j'allais dire, on n'a pas forcément à s'exprimer tout le monde, heureusement, parce que les débats dureraient encore plus longtemps. C'est bien que...
Du coup, on juge parfois qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être présent tel ou tel jour.
Absolument.
Ouais. C'est ça qui justifie l'absence de certaines
actions. Les moments forts, c'est-à-dire au moment des votes solennels, pour les grands textes qui ont lieu en général, ces votes le mardi après-midi. Donc là, faut être présent parce que c'est un vote nominatif. Et là, il y a 90% des collègues dans l'hémicycle.
Ils sont présents,
Voilà, la question au gouvernement, et idem. Et donc, je crois qu'il ne faut pas s'offusquer de ça. Il faut savoir aussi que À la faveur d'une modification du règlement de l'Assemblée, le travail en commission est désormais davantage valorisé. C'est-à-dire que, par exemple, un texte qui vient du gouvernement, un projet de loi, lorsqu'il arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale, il passe déjà dans la commission compétente pour l'étudier. Et tous les amendements qui ont été apportés dans le cadre de la discussion en commission sont retenus et donc on a un nouveau texte qui passe dans l'hémicycle. Alors qu'autrefois, on faisait le travail en commission, on déposait des amendements, s'ils étaient approuvés, on recommençait la même chose dans l'hémicycle. Donc c'était une perte de temps. Et alors que là, ce qui me fait dire que le travail de fond, ça se fait vraiment en commission. Et puis là, il n'y a pas de caméra pour dire, voilà, on fait le bon mot qui va bien, les effets de manche attendus qu'on peut faire dans l'hémicycle. Donc on gagne en efficacité, c'est clair. Mais ce travail en commission, je précise aussi que désormais, il est obligatoire.
Ouais.
Notamment le mercredi. Obligatoire. Donc ça a changé aussi
l'habitude
de certains parlementaires.
Ouais. Entendu. Rémi Delatte, on le disait, vous étiez député depuis 2007. Entre 2007 et 2022, le paysage politique, il a beaucoup changé, évidemment. Exactement. 2007, l'élection Nicolas Sarkozy, à l'époque, on était vraiment dans la bipolarisation de la vie politique Ségolène Royal qui était candidate du Parti Socialiste, Nicolas Sarkozy pour Les Républicains. Aujourd'hui, le PS et le parti LR, on a l'impression que ce sont deux partis, désolé pour l'expression, qui sont un petit peu moribonds, avec La République En Marche, qui est un petit peu, qui a pris une énorme importance. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui, vous, pour votre famille politique, Les Républicains, aujourd'hui, au vu du résultat de Valérie Pécresse?
Je suis apparenté à LR, je ne suis plus membre de,
plus
de
membre.
LR, mais je l'ai été. Et je suis fidèle au groupe LR à l'Assemblée nationale. Le paysage a beaucoup changé parce que la société, elle a changé aussi. Et qu'au fond, les gens se retrouvaient peut-être plus complètement.
Ils en avaient marre de cette opposition systématique droite-gauche. Un petit peu ça.
Alors,
aussi.
Alors, il y a un peu de ça. Et je pense aussi qu'il y a eu peut-être un manque de travail dans nos formations politiques, à droite comme à gauche. Hein, je ne porte pas de jugement plus sur un côté que de l'autre. Où finalement on n'a pas cherché à renouveler les idées, à refonder un peu un corpus d'idées qui soit capable de rassembler, d'ouvrir nos formations politiques.
Manque d'ouverture.
Justement. Manque d'ouverture.
Des deux côtés.
Je le crois profondément. Voilà. Et puis après, surtout l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui lui a dit et de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, je sais pas, entre Bayrou et Macron, il y avait eu la subtilité.
Et le en même temps, l'éternel en même temps aussi.
Et le en même temps. Et qui a à un moment donné l'illusion que finalement, ben, on pouvait effectivement gommer toutes ces aspérités, toutes ces différences entre la droite et la gauche, et que ben, on pouvait se retrouver sur un centre et de droite et de gauche. Alors, il y a des aspects positifs. On aurait pu imaginer effectivement qu'il y ait une recherche de consensus qui peut être intéressante. Mais en politique, il y a des moments faux. On a besoin d'avoir aussi des convictions et défendre ses convictions. Et puis, il y a des moments où ben, on est en opposition, il faut savoir le dire. Alors que là, on est toujours dans ça va bien pour tout le monde, etc.
Ça a ses limites.
Ça peut paraître un élément de facilité, mais qui a ses limites. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, ils nous projettent donc sur un espace, j'allais dire, deux blocs. Hein, le bloc de la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron, qu'on ne sait pas trop définir, centre-droit, centre-gauche, et puis les extrêmes, à droite et à gauche.
Et à gauche, ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est tout à fait grave pour notre organisation démocratique, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un vote, notamment pour
Emmanuel
Macron.
Et grave pour le Parti des Républicains.
Les LR effectivement sont aujourd'hui dans une impasse, parce que j'irai pas jusque là, mais doivent quand même se donner les moyens de renouveler complètement leur organisation, leur façon de voir les choses et reprendre vraiment un travail de fond. Et puis ce qu'il faut derrière, c'est qu'on ait une incarnation et qui a fait un peu défaut ces dernières années au niveau de LR. Il faut le reconnaître. Et je suis persuadé que ben on peut rebondir. Et je le souhaite.
Est-ce que les limites du macronisme pourraient être, d'ici quelques mois, quelques années, bénéfiques à LR? Est-ce que certains élus pourraient revenir Députés des personnalités de droite qui sont passées chez Macron, qui reviendraient chez les Républicains.
Quand on voit aujourd'hui Édouard Philippe, qui avait fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron il y a 5 ans et qui aujourd'hui a souhaité afficher une vraie différence par rapport à La République En Marche, on voit bien qu'il y a quand même deux sensibilités très différentes. Et je suis persuadé que la droite modérée, le centre droit, seront se fédérer pour créer peut-être une nouvelle organisation dans laquelle tous ceux qui ont été en son temps à LR et ceux qui y sont encore ont toute raison de se retrouver. En tout cas, moi je le vois comme ça. C'est pas vous parliez de mort des formations politiques traditionnelles. Une formation de gouvernement, socialiste.
Peut-être aller un peu loin.
Parti socialiste et LR. Je ne crois pas qu'on en arrive là. Mais il y a besoin d'imaginer quelque chose de nouveau. Faudra être créatif. Faudra être déterminé. Et encore une fois, essayer de trouver des personnes qui soient capables d'incarner cette modernité, comme a su le faire en son temps. Nicolas Sarkozy. Comme a su le faire Emmanuel Macron.
On a l'impression que c'est depuis le départ de Nicolas Sarkozy d'ailleurs que le parti s'est un petit peu disloqué d'ailleurs depuis son départ.
Oui, le parti a beaucoup profité effectivement de Nicolas Sarkozy
de sa popularité.
Sa popularité et puis son sens des responsabilités, etc. Il peut avoir aujourd'hui, il a profondément déçu les dernières semaines. On aurait pu attendre qu'il soutienne davantage sa famille politique à l'élection.
Il a choisi de soutenir Emmanuel Macron. Ouais.
Mais voilà, c'est comme ça.
Bon. Merci beaucoup Rémi Delatte.
Merci
Bonne
Fabrice.
Continuation à vous dans cette nouvelle vie, si je puis dire.
Merci beaucoup.
Vous restez dans la région, vous restez à Saint-Apollinaire, vous habitez ici.
Oui.
Vous allez travailler un petit peu pour la mairie. Vous avez été maire de Saint-Apollinaire à une époque.
J'ai été maire, j'ai été maire 22 ans, je suis conseiller municipal. Vous savez, j'ai commencé tôt. Hein.
Ouais.
J'ai commencé, j'avais 27 ans. Ouais. Alors pas à Saint-Apollinaire, j'avais 27 ans, j'étais 12 ans conseiller municipal à Dijon, puis à partir de 95 à Saint-Apollinaire, et je suis toujours conseiller municipal, et disponible pour le conseil municipal.
Et vous restez conseiller municipal, évidemment.
Bien sûr. Bon. On va jusqu'au bout de son engagement.
Merci beaucoup Rémi, bonne journée.
Merci Fabrice. Cassis FM.